on entame quelque chose, un projet, eh bien, on fait tout pour essayer de réussir. Sinon, si on part déjà dans l'idée que on va se louper, on n'a même pas envie d'essayer. Je sais pas comment vous êtes, enfin, parce qu'on va perdre sa motivation. Parfois, on peut perdre de l'argent. Forcément, c'est pas très motivant. Un élève qui, plus précisément, les étudiants vont s'armer de courage pour étudier, apprendre, sacrifier des week-ends, sacrifier parfois même des temps de loisirs, et parfois même travailler très tard dans la nuit pour pouvoir réussir leur partiel. Parce qu'ils ont un objectif, réussir. Le sportif de haut niveau va faire des sacrifices, là aussi sur son temps de loisirs. Il va faire des sacrifices sur son alimentation. Hein. Bon, je ne le prenais pas mal, mais je pense qu'en général, les sportifs de haut niveau, ça reste quand même. On est relativement jeune encore. Hein. À 30 ans, on commence à faire partie des personnes d'un certain âge quand on est un sportif de haut niveau. Presque, on nous parle de retraite, hein, des fois même. Eh bien, un jeune qui a une vingtaine d'années, il a peut-être envie d'aller au McDo, hein, pour ne citer que ça. Eh bien, le sportif de haut niveau va se priver. Parce qu'il veut faire attention à son alimentation pour continuer, continuer à entretenir sa forme, pour la simple et bonne raison, c'est que son objectif, c'est d'arriver au haut du podium. Le chef d'entreprise qui a ouvert son entreprise, qui a créé son entreprise, son objectif, c'est de réussir à vendre de la marchandise, et puis se faire connaître en France, enfin pour les chefs d'entreprise français, et puis voire même que ça soit exporté dans le monde. S'il commence à créer quelque chose et il sait que d'emblée c'est perdu, vous pensez bien qu'il ne se lancerait jamais dans une telle aventure. Toutes choses sont louables pour bien commencer à faire quelque chose dans l'idée de réussir. Mais il y a des choses sur lesquelles on peut se louper, qui n'auront aucune conséquence dans notre vie. Un dessin. Un trait de crayon qui est loupé, vous mettez un coup de gomme, puis vous reprenez. Il y a des choses comme ça qui font que c'est rattrapable. Il n'y a pas de problème. Mais que se passe-t-il dans la tête de quelqu'un qui vient juste de se rendre compte qu'il a commis une erreur, qu'il a commis une faute? Juste après, eh bien. Il peut avoir de grands regrets. Il y a un mélange de sentiments fait de honte, de remords, de déception de soi, d'amertume et de défaite. Les âmes bien pensantes vous diront qu'un bon disciple ne fait pas d'erreur. Revenons dans le cadre de l'Église. Un bon disciple ne fait pas d'erreur, ce n'est pas possible. Et pourtant, nous savons que c'est. Bien entendu que c'est complètement faux. La Bible en parle. D'autres vous parleront avec facilité de la dimension du pardon dans laquelle il faut entrer. Ils n'ont pas tort, mais c'est aussi biblique. Mais il faut réaliser aussi que parfois c'est compliqué, c'est difficile. Sauf que il nous faut parfois vivre avec nos erreurs. Des erreurs qui nous collent comme sur la peau, comme un tatouage. J'aimerais, pour exemple, eh bien, une histoire de David, un passage de sa vie dans 2 Samuel 12, chapitre 12, pardon, versets 13 à 14. Un passage que beaucoup de chrétiens connaissent, parce que David, nous le savons, était l'homme selon le cœur de Dieu. Nous connaissons certains passages de David et Goliath. Et nous connaissons ce passage qui est bien connu aussi concernant l'histoire de Bathsheba. Mais ce matin, nous allons voir justement l'histoire de Bathsheba et nous allons nous apercevoir qu'il y a des choses à retirer qui sont importantes. 2 Samuel 12, versets 13 à 14. Il est écrit, David, donc une fois que David a commis son péché, une fois que David a commis l'adultère, une fois que David a brouillé les choses pour que Uri, le mari de Bathsheba, soit tué, ou plus précisément orienté pour que celui-ci soit tué, Eh bien, Nathan, le prophète Nathan, va venir rencontrer David. Je brûle les étapes. Et Nathan va lui dire que c'est lui qui a péché. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » David est celui qui avoue sa transgression. David est celui qui ne cherche pas d'excuses. Il n'est pas l'homme qui va chercher à se tourner vers les uns et les autres par rapport à son passé en disant « Oui, mon père était comme ça, ma mère était comme ça, j'ai été mal entouré, c'est un problème de famille, tu vois, ça me colle à la peau, ne dit-on pas tel père, tel fils ?» C'est complètement faux. David prend sa responsabilité. Il ne cherche aucune excuse. Il ne dit pas « Oui, mais bon, le Seigneur, pourquoi ne m'a-t-il pas arrêté? Pourquoi que Bathsheba était là en train de se baigner ?» Non. Il se trouve aucune excuse. Il dit « J'ai péché. » Mais son péché aura des conséquences tragiques. Et nous en connaissons la raison. Pourquoi tragique ? Parce que David n'étant pas un homme ordinaire, enfin oui, un homme ordinaire, mais un poste qui n'était pas du tout ordinaire. Roi d'Israël. Et d'ailleurs, Dieu fera dire par la bouche de Nathan, « Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action. » Ça aurait été quelqu'un d'autre, certainement que les choses se seraient passées différemment. Et puisque David avait une haute responsabilité, les choses ont été catastrophiques pour lui. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, nous dit la parole. David avait jeûné, David avait pris du temps parce qu'il avait entendu Nathan lui dire « Ton fils va mourir à cause de ce que tu as fait. » Et Nathan, David, qui connaissait Dieu, a essayé de retourner la situation, plutôt à inverser le changement de vapeur. Il savait qu'il pouvait toucher le cœur de Dieu, que Dieu pouvait changer son plan. Et pourtant, Dieu a fait ce qu'il avait dit. Une erreur. Le mot est bien faible. Une erreur. Pas de la part de Dieu, de la part de David. Et je crois, mes amis, que parfois nous pouvons commettre des erreurs qui peuvent nous poursuivre tout le long de notre vie. Tout le long de notre vie. Alors, on peut vivre comme tout à chacun, vivre ou donner l'impression de vivre normalement, et pourtant, au fond de son cœur, vivre avec cette erreur. Vivre avec les conséquences de son erreur. Vivre avec ça en se disant, donner l'impression que tout va bien. On peut avoir le sourire, on peut être joyeux, ou donner l'impression d'être joyeux, mais année après année, se rappeler ce que l'on a fait, et vivre ça comme un secret. Quelque chose qui nous a traumatisés, quelque chose qui nous a profondément bouleversés. Quelque chose, si on posait la question à cette personne en disant « Est-ce que tu regrettes ?» Il vous dirait « Est-ce que c'est une question à poser ?» Bien sûr que je regrette. Si j'avais su où ça m'a conduit, si j'avais su les conséquences de ma folie, pour David et Bathsheba, mais pour d'autres situations aussi, qui sont peut-être moins tragiques à nos yeux, mais qui ont des conséquences parfois, qui peuvent nuire à notre vie et ainsi nous empêcher de progresser avec Dieu. Et on est limité avec Dieu en se disant « Mais Dieu, est-ce que vraiment Dieu m'a-t-il pardonné? Est-ce que vraiment Dieu est celui qui peut changer mon existence, qui peut changer le cours de ma vie ?» Le psaume 51 fait référence au passage que nous avons lu ensemble. Le psaume 51 nous parle, nous enseigne, nous montre réellement les profondeurs de ce que David est en train de vivre. Il dit au verset 5, « car je reconnais mes transgressions. Et ce qui est intéressant avec ce psaume 51, c'est qu'il fait écho eh bien, à 2 Samuel 12. J'ai péché contre l'Éternel. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ici, nous voyons vraiment un homme eh bien, profondément bouleversé. Ce n'est pas le simple pardon. Bon, je te demande pardon, je dirais le pardon de politesse. Ou le pardon, bon, allez, hein, allez, hop, on fait la paix, bon, on n'en parle plus. Non, non. On voit que cet homme, c'est du sein de ses entrailles, il a demandé réellement pardon. Et il est en train de le vivre. Car je reconnais mes transgressions. Nous ne savons pas si combien de temps se sont écoulés entre le fait que David ait péché et le fait que Nathan soit venu, certainement quelques mois. Mais dans le psaume 32, aussi il est question eh bien, de David qui a glissé. Il dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » On est bien placé ici dans cette région pour parler de sécheresse. Au début du printemps, nous voyons les herbes qui croissent, qui sont bien vertes et fortes. Et comme celles-ci ne sont pas arrosées, eh bien elles jaunissent. Et elles sont mortes sur pied. David était en train de vivre eh bien, une mort. C'était un mort vivant, consumé de l'intérieur. Je crois que on peut vivre avec un secret dans son cœur, un secret où on a commis une erreur, où personne n'est au courant. Mais on sait que Dieu est au courant. Et on le vit franchement très très mal. Très très mal. Et ça nous ronge. Ça nous ronge. Ça nous mine. Et ça nous ruine. Et ce matin, j'aimerais, mes amis, vous inviter à reconsidérer ces choses. En vous disant clairement que Dieu connaît votre situation. Que Dieu n'est pas à côté, que Dieu ne vous a pas oublié. Et que Dieu connaît la sincérité de votre cœur. Et qu'au fond de vous-même, vous êtes de ceux et de celles qui se disent « Mais j'aimerais tellement être convaincu que Dieu me pardonne. Est-ce que je suis allé trop loin ?» Il y a une femme dans la parole que, là aussi, vous connaissez son histoire. Cette femme, je crois que c'est Élie qui va aller voir cette femme qui, la veuve de Sarepta, et Élie va lui proposer, va lui demander un peu d'eau, un peu de pain, vous connaissez l'histoire. Cette femme va révéler en disant ben, « J'ai un peu de morceaux de bois, un peu d'huile, un peu de farine, et puis moi et mon fils, nous allons manger et nous allons mourir. » Et une fois que l'homme de Dieu eh bien, lui adresse une parole de Dieu, de la part de Dieu, et que celle-ci voit que l'alimentation, l'huile et la farine sont dans le pot, voilà qu'il arrive aussi une catastrophe dans cette famille. L'enfant meurt. Et là, c'est une parole qui est douloureuse pour cette femme. Cette femme ne comprend pas ce que Dieu fait. Et ce n'est pas elle qui est venue chercher Dieu, combien même, eh bien, elle avait une connaissance sur Dieu, une connaissance purement religieuse. Un jour, elle se retrouve chez elle avec un homme de Dieu, et elle sait que c'est Dieu qui intervient à travers l'homme de Dieu, puisque alors que sa vie était en une faillite, eh bien, elle voit que Dieu bénit cette femme. Et là où elle ne comprend plus pourquoi son fils est en train de mourir. Ce qu'elle dira, cette femme, eh bien, à l'homme de Dieu, c'est dans 1 Roi 17, verset 18, « Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité ?» Quelque chose qui était oublié. Peut-être même que les gens avaient oublié ce qu'elle avait pu faire, ou combien même elle était la seule à savoir ce qu'elle avait fait. Et comme un secret, comme une pierre qu'elle avait installée dessus, une pierre tombale, en disant, voilà, c'est un vieux souvenir, je ne veux plus en entendre parler, je ne veux plus qu'on m'en parle. Et pourtant, es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité ? Le souvenir. Il y a des choses qui nous font plaisir. Parce qu'on se souvient de bons moments. La naissance d'un enfant, le mariage, la conversion de quelqu'un pour qui on a prié, votre permis de conduire, le jour où vous l'avez reçu. Enfin, un tas de choses qui font que, des fois, on a des bons souvenirs. Mais il y a des souvenirs qui nous rongent. Et cette femme était en train d'être rongée au fond d'elle-même. Alors pourquoi Dieu vient et va faire ressortir ce vieux souvenir? Est-ce que Dieu est là pour bien nous tordre l'esprit? Est-ce que Dieu est là pour nous torturer? Pour dire ça fait mal, hein? Les autres ont oublié, les autres peut-être ne sont même pas au courant, mais moi je sais. Et surtout, moi je n'ai pas oublié, je te torture. T'as peut-être une pensée qui peut nous traverser l'esprit en disant, mais après tout, Dieu, qui connaît toutes choses, qui sait toutes choses, est-ce que Dieu ne serait pas celui qui se venge? Or, mes amis, cette femme avait besoin de sortir de son erreur, du souvenir de son erreur, comme pour David. Ça peut nous sembler avoir des douleurs, avoir mal, et pourtant Dieu permet certaines situations dans notre vie pour dire « Je sais où tu en es, je connais ton secret, mais donne-moi-le, donne-moi ton secret. » Donne-moi ton secret parce que c'est à partir de là où je vais te donner de vivre avec ton erreur. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des erreurs que l'on peut effacer facilement. Vous avez loupé le stop, votre voiture est accidentée, vous allez chez le carrossier, la voiture elle repart de plus belle, puis voilà, l'erreur est effacée. Bon, la prime au niveau de l'assurance est autre chose, mais enfin bon. On vous fera rappeler que vous avez accidenté votre voiture. Bon, c'est autre chose. Mais n'empêche que votre voiture, vous allez la retrouver, bon, voilà. C'est même étonnant, vous dites, mais c'est pas possible, ils font des choses. Mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. Une jeune fille qui a rencontré un jeune homme, ils sont fous amoureux l'un de l'autre, enfin, elle pense que lui aussi, il l'aime profondément, véritablement, et ils commettent, ils se connaissent avant le mariage, une erreur, et puis voilà que cette jeune fille devient maman. Et le jeune homme, apprenant que celle qu'il a connue jeune fille devient femme et devient maman, dit « Ciao, je ne te connais plus. » Et la maman, eh bien, celle qui était jeune fille qui est devenue maman, va donner naissance à son bébé toute seule, sans la présence du papa. Et le papa s'est fait oublier. Comment faire? Est-ce qu'on peut remonter en arrière pour dire « Oh là là, si j'avais su !» Oui, si j'avais su, mais si j'avais su, ne ferait pas que le petit ne serait pas là. Le petit, il est là. Et cet enfant a besoin d'être aimé. Mais la maman a besoin d'être soutenue. Est-ce qu'il faudrait dire à cette maman « Va-t'en, tu es banni, on ne te reconnaît plus, on ne veut plus t'aimer ?» Bien sûr que non. Bien au contraire. Il faut l'entourer. Dire « On est là, avec toi, à tes côtés. » Pourquoi il est important de se souvenir aussi de nos erreurs, sans pour autant que celles-ci doivent nous faire du mal ? Pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs, pour ne pas faire les mêmes fautes. Se souvenir de ces erreurs, c'est aussi, eh bien, ça nous permet d'apprendre à aider les autres qui commettront des erreurs. Je l'ai déjà eu, ça m'est arrivé de le dire déjà, mais quelqu'un a dit un jour, je ne ferai pas confiance à un homme qui n'a jamais souffert. Nous avons prié pour un docteur qui a eu le Covid. Réanimateur dans sa fonction, dans son travail. Cet homme, eh bien, est passé à côté de la mort. Réanimateur. C'est un homme qui a côtoie régulièrement la mort. En réanimation, ce n'est pas simple. Il y a des gens qui s'en sortent, mais il y a aussi des gens qui meurent en soins intensifs. Eh bien, je suis convaincu, je ne connais pas cet homme, mais je suis convaincu que si un jour je le rencontre, dans quelque temps, eh bien, cet homme aura changé. Si je lui pose la question, comment vous travaillez maintenant? Avec quelle philosophie vous travaillez? Je suis sûr que cet homme ne vit plus son travail comme il le vivait avant. Avant, il le faisait comme un technicien de la santé, un professionnel, un homme peut-être voué à son travail, un homme qui aime son travail, comme étant une vocation pour lui, et dans la joie de voir que des gens se sortent bien du coma, que des gens sortent de l'aréa. Mais lui qui a goûté à ça, eh bien, n'aura plus les mêmes façons de faire, la même pensée, la même idée, en disant « je sais ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent, parce que moi je l'ai vécu ». Et c'est la raison pour laquelle il est important, non pas d'entretenir son erreur, mais de continuer à apprendre à vivre avec son erreur, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et ça nous aidera à aider les autres. Reconnaître et vivre aussi, eh bien, à se souvenir de son erreur, ça nous permet de voir combien la grâce de Dieu est immense pour notre propre vie, malgré nos erreurs. Il vous est arrivé peut-être de commettre une erreur et de voir que Dieu continue à se servir de vous. Que Dieu, un dimanche matin, vous parle, ou à travers la parole de Dieu, à travers sa paix, après lui avoir demandé pardon, et vous dites, mais comment Dieu peut-il encore m'aimer? Comment Dieu peut-il encore agir dans ma vie? Parce que l'amour de Dieu est un amour immense, qui n'excuse pas les choses. Il dit, tu as péché, mais je suis le seul qui puisse, eh bien, te relever, te permettre de vivre avec ton erreur. Combien de situations, combien de gens qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie et qui pourtant, eh bien, j'ai l'exemple d'un couple qui, il y a des années et des années, c'était nos voisins un peu plus loin, j'étais jeune, je devais être ado, je crois, et il y avait une ou plusieurs armes à feu à la maison. Et un jour, le petit, on n'a jamais su vraiment pour qui, pourquoi, a pris une arme à feu de son père qui était, je crois, chargée. Essayé de tirer une balle ou une cartouche, enfin, peu importe. Et cet enfant en est mort. Le couple a complètement explosé. Complètement explosé. Ils se sont séparés. Ils ont fait chacun leur vie. Mais avant de se séparer, il y a eu un autre enfant. Peut-être ont-ils pensé que c'était bien d'avoir un autre enfant pour, entre guillemets, remplacer celui qui était parti, mais on ne remplace pas celui qui est parti. Ça n'arrive pas, ça ne peut pas arriver. Ce n'est pas possible. Et malgré tout, le couple a complètement explosé. Je crois qu'il en est de même parfois dans certains couples. On pardonne, mais on n'oublie pas. Mais on n'oublie pas parce qu'on n'a pas la capacité d'oublier. Dieu seul pardonne et peut oublier. Mais parfois, dans j'oublie pas, c'est aussi un malaise. On se dit, mais comment je vais faire pour vivre avec son erreur, avec mon erreur? Il n'y a que Dieu. J'aimerais vous donner cet exemple de l'apôtre Paul qui disait clairement dans les Philippiens 3:13, il dit, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. S'il y a bien quelqu'un qui pouvait se reprocher quelque chose, il y a bien des exemples dans la parole, mais au moins lui, un persécuteur, un homme qui avait du sang, peut-être pas sur les mains, mais au moins sur sa conscience. Des gens qu'il a séparés, divisés. Vous avez tous été choqués par rapport à des reportages, parfois lorsque vous avez vu des reportages sur l'histoire de 39-45, lorsque les SS passaient et ils arrachaient, eh bien, dans les camps, Auschwitz, lorsque les gens descendaient des trains avec les bergers allemands, les chiens, pour faire descendre les gens plus vite. Il y avait le médecin qui était là, qui séparait les bien importants et les moins bien importants. Les mères avec les enfants, les pères d'un côté, voilà, on faisait le tri. Et un peu plus loin, la fumée qui monte au ciel, c'était les fours. On est traumatisé par des choses comme ça. On dit, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Imaginez l'apôtre Paul, bien sûr, on n'en est pas arrivé à ce niveau-là, mais l'apôtre Paul, eh bien, a été de ceux, qui ont fait que les gens soient séparés, déchirés. Il m'est arrivé parfois de dire comme ça que l'apôtre Paul, à un moment donné, va prier trois fois en disant il avait cette épine dans la chair. Et à trois reprises, il va demander au Seigneur de lui enlever cette épine. Alors, vous avez plusieurs commentateurs qui disent comme ça que, bon, c'était ses yeux, d'autres ont pensé que c'était autre chose. Il y a toute une liste d'idées pour lesquelles, eh bien, on pense que Paul a dit « retire-moi cette écharde ». Et moi, j'ai pensé aussi, humblement, j'ai pensé aussi à une idée, et je me suis dit, mais, et si son écharde, c'était à chaque fois lorsqu'il arrivait dans une réunion de maison, lorsqu'il arrivait dans une église, lorsqu'il arrivait, là, il y avait un attroupement de quelques personnes, et que la grand-mère dise à Paul, « Paul, je suis contente de vous rencontrer, parce que, vous savez, il y a quelques années, alors, avant que vous ne soyez converti, ben, vous avez fait mettre mon mari en prison. Mon mari, il en est mort. Notre famille était déchirée, mais heureusement que le Seigneur, il est là, hein. Il vous a changé. Je vous pardonne, Paul. » Paul, bien sûr, il pouvait entendre ce genre de choses. Mais combien? Parce qu'il est question de souffler. Le souffler, c'est une claque. Vous et moi, et l'apôtre Paul s'est pris souvent des claques. Combien de fois l'apôtre Paul s'est pris une paire de gifles par l'adversaire qui disait, tu vois, ton passé te poursuit. Tes erreurs sont là. Et l'apôtre Paul était là sans cesse en disant, Seigneur, enlève cette écharde. Mais il a bien compris qu'à un moment donné, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Et si ce matin, mes amis, vous acceptiez de vivre avec votre erreur, je vous dire simplement, vous ne pouvez pas faire autrement. C'est la raison pour laquelle, David, les gens sont étonnés lorsqu'ils apprennent à David que l'enfant, il est mort. David, il va se laver, David va manger, David va retrouver une vie normale, mais les autres qui sont là, ils ne comprennent plus, ils disent, mais l'enfant, lorsqu'il était vivant, bah, tu jeûnais, tu étais vraiment, on voyait que tu étais. Et là, on ne comprend pas. Explique-nous, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que maintenant que ton enfant est mort, ton garçon soit mort, tu te laves, tu manges, tu ne jeûnes plus? Enfin, et David le dit en quelques mots, il dit, mais je pensais que Dieu pouvait, mais Dieu ne fait pas. Il sait pourquoi Dieu permet ça pour sa vie, à cause de son erreur. Et pourtant, voyez-vous, comme pour Paul, comme pour David, comme pour cette femme, la veuve de Sarepta, Dieu est intervenu. Pour conclure, on peut voir dans le psaume 51, verset 1, ce que David va dire, ou verset 2. 51, verset 2, verset 3, pardon. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes transgressions, ô Dieu. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. C'est une prière d'un homme qui reconnaît, mais une prière pleine d'espérance, parce qu'il sait à qui il s'adresse. Mes amis, si vous adressiez à un homme, il y aurait de quoi avoir peur. Peut-être même vous vous faites peur à vous-même en vous disant « Jamais je me pardonnerai, jamais !» Êtes-vous plus fort que Dieu ? Êtes-vous plus grand que Dieu ? Ou seriez-vous prêt ce matin à vous dire « J'accepte de me pardonner ». Vous savez que le pardon a un pouvoir immense, immense, de délivrance. Un jour, il y avait une brave sœur qui en voulait terriblement au pasteur. Elle avait, voilà, de la haine, je ne sais pas ce qu'elle avait, je suppose ce qui s'était passé entre eux. Et puis, il s'est formé un gloître. Elle a eu un problème de santé. Je joue juste une petite parenthèse que je vais vite fermer. Je ne suis pas en train de dire ici que tous ceux qui sont malades, c'est parce qu'ils ont un problème avec les uns et les autres. Ça n'a rien à voir. Mais ça peut aussi avoir un rapport, la preuve en est. D'accord ? Donc, soyez tranquille, si vous êtes souffrant, ne pensez pas, ça y est, j'ai péché contre quelqu'un. Non, ça n'a rien à voir. Hein ? Mais cette femme, elle, ça avait ce lien. Et cette femme, eh bien, a accepté de pardonner à ce pasteur. D'être en accord avec lui. Et lui, je crois, il n'était même pas au courant de cette histoire, comme quoi elle pouvait vivre son problème en secret. Et elle a reçu dans son cœur qu'il fallait qu'elle s'approche pour que le pasteur prie pour elle. Alors, c'était l'homme qu'elle haïssait, c'était lui qu'elle priait pour elle. C'était pas simple. Hein. Alors elle s'approche et elle demande pardon au pasteur. Le pasteur prie pour elle, et à l'instant, le gloître a disparu. Il y avait besoin de cette délivrance. Il y avait besoin de faire ce pas pour dire « Je vous demande pardon ». Mais je crois que c'est tout aussi utile pour soi-même de se pardonner. Je termine. Paul a accepté de se pardonner. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Il n'était pas en train de faire l'idée de se dire « Oh, c'est pas grave, Dieu m'a pardonné, oh là, c'est bon, on n'en parle plus. » Non, 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 ça c'est pas une vraie repentance. Il y a eu un travail profond dans son cœur. C'est un homme qui a vécu, quelque part, il a été encouragé, presque pas contraint, mais encouragé par Dieu, parce qu'il n'y avait que lui qui pouvait lui dire « Ma grâce te suffit, on n'en parle plus, mais il faut que ça reste dans ta mémoire, pour plus que tu recommences, pour que ça serve d'exemple pour les autres. Tu n'oublieras jamais ce que tu as fait. » David, jamais plus on entendra David faire ce qu'il a eu fait. Il l'a fait une fois, jamais plus il l'a refait. Cette femme, la veuve de Sarepta, elle avait besoin aussi d'être encouragée par Dieu en disant « Oui, tu as péché, mais je t'ai pardonné. » Ne vis plus avec cette erreur dans ta tête qui te fait arrêter. Entretiens dans ta mémoire, mais que ce n'est plus, c'est plus ton erreur qui va te dicter, qui va te donner le tempo de ta vie. Ça fait partie de ta vie. Tu ne l'oublieras pas. Mais sers-toi de ça, construis dessus. Pour revenir donc, je dis que c'était la fin, que je terminais. Ça fait combien de fois je le dis ? 3 fois ? J'essaie de mouiller mon doigt, mais je m'aperçois qu'il y a le masque. Tout à l'heure, Nadine m'a dit « c'est pas facile d'avoir le masque ». À qui tu le dis ? À qui tu le dis ? 2 Samuel. Regardez ce que Dieu fait. Et il n'y a que Dieu qui puisse faire des choses pareilles. Ne cherchez pas autour de vous, les gens ne pourront jamais faire ce que Dieu est capable de faire. Même vous, pour votre propre personne, vous n'arriverez jamais à faire ça. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui se suicident. Parce qu'ils n'acceptent pas de se pardonner. Le pardon, c'est une puissance de délivrance pour les autres, mais pour soi aussi. J'irais même dire que les gens vont demander pardon à Dieu, ils acceptent le pardon de Dieu, parce qu'on leur parle de la croix, mais eux ne se pardonnent jamais. C'est une erreur. Là, pour le coup, qu'il ne faut surtout pas, enfin, une erreur, il ne faut pas la commettre, bien sûr, mais qu'il ne faut pas entretenir. Donc, il est dit, 2 Samuel 12, verset 24, « David consola Bathsheba, sa femme, après donc la mort du petit. Il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon. Salomon veut dire paisible. À nouveau, il y avait la paix dans leur cœur. Ça veut dire aussi vêtement. Et on peut mettre en parallèle le vêtement, ça nous parle eh bien d'être revêtu à nouveau de la grâce de Dieu. Il est écrit « Et qui fut aimé de l'Éternel ». Salomon fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète. Et quelle belle image, Nathan étant le prophète, l'homme de Dieu, il remet, c'est-à-dire qu'il remet quelque part eh bien, cet enfant entre la grâce de Dieu. Il lui donna le nom de Jedidja à cause de l'Éternel. Jedidja signifie « bien-aimé de l'Éternel ». Quelle grâce! Vous voyez comme quoi Dieu ne ferme pas les yeux sur nos erreurs, mais Dieu nous pardonne quand on nous lui demande sincèrement pardon, mais aussi Dieu donne un nouveau départ. Et nous sommes appelés à construire sur nos erreurs ou sur notre erreur pour éviter d'en faire d'autres. Alors que Dieu nous bénisse ensemble.